allons continuer quelques petites remarques sur la qualité. Parce que nous étions restés sur la qualité. Dans la philosophie d'Aristote. Donc, le lieu très important que je vous rappelais la dernière fois, c'est le point de vue des catégories. Et puis, il y a cet autre aspect, cet autre lieu, je veux dire, dans sa philosophie première, dans le chapitre 14 du livre Delta, où il traite expressément de la qualité. Alors le terme, qu'est-ce que c'est que la qualité? Parce que le livre Delta, c'est le dictionnaire philosophique. La qualité se dit en premier lieu. Alors vous voyez, de même ici toujours, la qualité se dit polakos. L'être se dit polakos. La qualité se dit polakos. C'est intéressant parce que c'est pour nous là où on voit la première découverte du point de vue de l'analogie. Est-ce qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire? La qualité se dit en premier lieu de la différence de la substance. Diaphora, tes ousias. ce diaphora touche l'osia. En un autre sens, la qualité se dit des choses mathématiques immobiles. C'est très curieux. Donc, en mathématiques, vous trouvez la qualité. Les nombres composés peuvent être envisagés dans leur unité propre, comme une certaine qualité. On manifeste alors ce qui, dans la nature du nombre, est en dehors de la quantité. La nature de chaque nombre n'est-elle pas ce qu'il est dans son ultime unité propre? L'unité du nombre fait que chaque nombre diffère de l'autre. Oui, fait différer. S'il y a une différence, il est donc qualifié. Pour Aristote, les mathématiques implique une qualité. C'est très intéressant parce que ça montre bien que les mathématiques ne sont pas dans l'université pure. Troisièmement, la qualité se dit des propriétés des substances en mouvement, comme la chaleur et la froideur. Quand elles changent, les corps qu'elles affectent sont dits subir une altération. La qualité dans le mouvement, c'est l'altération. Donc c'est dans le devenir. La qualité dans l'ordre de l'être, alors voyez comme c'est curieux. Hein? La qualité nous met au-dessus des distinctions extrêmement importantes substance-accident, être et devenir. Ça montre comment la qualité peut très bien caractériser une philosophie. Et que cette philosophie aura un caractère particulier. Ce ne sera pas la philosophie de l'être. Les philosophies à tendance artistique, esthétique, sont les philosophies de la qualité. On va essayer de comprendre ça, parce que c'est intéressant au point de vue de la manière dont notre intelligence atteint le réel. Enfin, la qualité se dit des vertus et des vices, et en général du bien et du mal. Après avoir énuméré ces quatre significations de la qualité, mais c'est beaucoup plus profond que les catégories. Et ça nous fait toucher quelque chose de très particulier de la qualité. Aristote cherche à les ramener à deux. La qualité première, vous voyez donc, on est bien dans une espèce de réduction de la qualité. La qualité première, la qualité au sens fondamental, c'est la différence de la substance. La qualité dans les nombres n'en est qu'une variété. C'est une différence de substance non mobile. Le nombre étant une substance non mobile et donc une modalité particulière de différence. C'est aussi très intéressant par rapport à ce qu'Aristote considère pour le domaine de la quantité, le domaine des mathématiques. La seconde signification de la qualité est d'être une détermination des êtres mobiles. Donc, les deux grandes différences, c'est la qualité dans le mouvement et la qualité dans l'être. En tant que mobile, elle est une différence du mouvement, donc c'est l'altération. Or, la vertu et le vice font partie de ce dernier mode, car ils manifestent les différences de mouvement ou d'activités, suivant lesquelles les êtres en mouvement agissent ou pâtissent, bien ou mal. Donc on ramène tout le point de vue éthique au devenir. Ce qui est aussi très intéressant, tu vois, comme manière de diviser les choses et d'atteindre les réalités dans la perspective. bien que l'éthique ne t'y passe pas le devenir. D'une certaine manière, là vous allez me dire, mais ça, le bien est au-dessus du devenir. C'est vrai, mais vertu et vice qualifient un mouvement vital, donc qualifient un devenir. Aristote note que c'est surtout dans les vivants et parmi eux principalement chez ceux qui en sont doués du libre arbitre que le bien et le mal expriment la qualité. C'est sûr que le point de vue de la volonté apporte dans le devenir une qualité spéciale. Et cette qualité spéciale, c'est plus le point de vue du bien et du mal. Oui, la différence du bien et du mal. On voit sans peine que la division des quatre genres de qualités données dans les catégories et celle des quatre sens donnés dans la philosophie première ne correspondent pas immédiatement. C'est sûr. La diversité de ces divisions manifeste des points de vue très différents qui les servent de bien situer si l'on veut saisir la pensée d'Aristote. Dans les catégories, Aristote précise les diverses modalités qualifient la réalité physique. Celle-ci est qualifiée d'abord par les dispositions et les habitus. C'est la qualification par excellence, celle qui touche le plus profondément la nature, l'exis, l'habitus. En second lieu, vient l'aptitude et l'inaptitude naturelle, qui permet d'accomplir facilement ce qu'on doit accomplir. Cette qualification avec l'exercice du mouvement. En troisième lieu, viennent les qualités passibles ou affectives, les passions, les affections. Qualification concernant les sources et les effets du mouvement naturel. Et surtout chez le vivant. Enfin, la figura, schema. La forme qualifie la réalité physique en tant qu'elle implique la quantité. Donc, voyons bien comment, et c'est peut-être c'est l'intérêt de ça, c'est peut-être par la qualité qu'on saisit le mieux ce qu'est les catégories. Vous savez bien, il y a des discussions indéfinies pour savoir ce que sont les catégories d'Aristote. Donc, il faut essayer de saisir. Qu'est-ce que c'est que les catégories d'Aristote ? C'est pas commode. Je crois que c'est la manière dont il divise la qualité qu'on saisit le mieux ce qu'est les catégories d'Aristote. N'oubliez jamais que c'est la manière dont un philosophe divise qu'on saisit le caractère particulier de sa philosophie. La division étant le procédé intellectuel par excellence. Ça, c'est très très important au point de vue critique. Hein. Quand vous voulez comprendre un peu une philosophie où elle se situe, regardez tout de suite la manière dont ce philosophe divise. Ça révèle des quantités de choses, vous voyez. Quand on regarde une table des matières, c'est une division. On divise. Alors, on voit par là, vous voyez, ce qui intéresse en premier lieu, puisque par la division, on analyse. Toute analyse implique une division. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la division est commune à la philosophie dialectique et à la philosophie de l'analogie. C'est donc la division qui va nous permettre de voir le point de contact entre une philosophie dialectique, type hégélienne, type platonicienne et néoplatonicienne, et type aristotélicienne. Puisque les deux divisent, et l'une divise d'une manière analogique, et l'autre divise d'une manière dialectique. Mais c'est des deux côtés la division. Oui. Donc on saisit là l'intelligence dans une perspective dialectique et dans une perspective analogique. Si, de fait, les deux grandes formes de philosophie, c'est l'analogie et la dialectique, c'est très intéressant pour nous, et même c'est capital, de saisir ce qu'est la division et de regarder comment les deux se servent de la division. Je dis ça parce que je crois que c'est par là qu'on doit aborder en définitive, toute philosophie. Comment le philosophe divise? Et vous saisissez tout de suite, alors, si on est en face d'une pensée dialectique ou d'une pensée analogique. Donc ça, c'est très très intéressant. Dans la philosophie première, Aristote considère la qualité relativement à ce qui est. Et comme la première modalité de l'être est l'ousia, la qualité est considérée relativement à l'ousia. Sous cet aspect, la qualité apparaît en premier lieu comme différence de l'ousia, ce qui nous manifeste l'originalité propre de tel ousia et ce qui la distingue de tel autre. La qualité fait différer, elle distingue. Elle est donc l'âme de la division. Une division objective se fait par la qualité. Une division subjective se fait non plus par la qualité, ou plus exactement, elle se fait par la qualité. Mais c'est pas la qualité, c'est la quantité. Et c'est ça, je crois, qui est intéressant à voir. C'est que la qualité, par elle-même, se différencie. La quantité se divise subjectivement par l'intelligence. C'est l'intelligence qui est l'acte de la quantité, tandis que la qualité est acte par elle-même. Alors, on voit tout de suite les deux grands procédés de division. C'est pour ça que qualité et quantité sont quelque chose de si important pour nous. Parce que ça montre les deux grandes modalités par lesquelles l'intelligence aborde la réalité. Donc, dans le point de vue métaphysique, l'ousia diffère par elle-même. Et la qualité de l'ousia montre la différence de l'ousia. On dira en logique la différence spécifique. Oui. Mais c'est intéressant de voir le fondement métaphysique de la différence spécifique. Dans le monde des mathématiques, la qualité est ce qui rend le nombre tel, ce qui le distingue d'un autre, tandis que la quantité, ce qui le met en continuité avec les autres. La quantité permet le contact, la continuité, la qualité fait différer. Alors, quelle est la qualité en mathématiques? Est-ce que la qualité en mathématiques n'est-elle pas l'acte du mathématicien par rapport à la quantité? Ça, c'est pas dit, hein. Et c'est ça qui serait intéressant à bien préciser. En métaphysique, la qualité est objective. En mathématiques, la qualité est-elle objective? Ou n'est-elle pas l'opération propre du mathématicien par rapport au domaine de la quantité? Ce qui est sûr, c'est que la qualité existe en mathématiques. On ne dit pas plus, hein. Aristote constate. Mais au plan critique, nous devons poser la question. Dans le monde du devenir, la qualité est la propriété des natures qui sont au principe du mouvement. Dans le monde des opérations volontaires, la qualité est la vertu, le vice. Ainsi, tout peut se ramener à la différence de l'ousia et à la détermination des êtres mobiles. l'altération d'être ma vie, ce serait peut-être plus juste. Parce que l'altération implique une détermination, mais implique une détermination en devenir. C'est le propre de l'altération. C'est pour ça que ce serait peut-être plus juste de dire, corriger, ainsi tout se ramène à la différence de Lucia et à l'altération d'être ma vie. Parce que je mets détermination, c'est pas assez précis, c'est l'altération. Des êtres mobiles. La qualité, c'est ce qui détermine l'être, ce qui fait différer l'être et qui altère le devenir. Qui donne au devenir sa couleur, si vous voulez. L'altération donne au devenir sa couleur, sa qualité. Et ça, l'altération. C'est quelque chose qui s'altère. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça s'altère? Ça passe une qualité à l'autre. Donc ça qualifie le devenir. Il y a une altération qui est une corruption, il y a une altération qui est une génération. Il y a une altération qui va vers quelque chose de plus, il y a une altération qui va vers quelque chose de moins. Et des deux côtés, c'est l'altération. Donc elle se qualifie vers le plus, vers le moins. Mais toute altération implique une détermination. On comprend alors pourquoi Aristote, dans le livre Delta, examine séparément les significations de la disposition et de l'exis, de l'habitus, qui sont des déterminations en vue du bien, ainsi que celles du pathos. La disposition est soit selon le lieu, soit selon la puissance, soit selon la forme. C'est une détermination orientée et ordonnée. Du point de vue métaphysique, ce n'est plus uniquement dans la lumière de l'ousia qu'il faut la comprendre, mais aussi dans la lumière du bien. C'est aussi très intéressant de voir ça. Hein. La qualité n'est pas uniquement au niveau de l'être ou de devenir. Elle est aussi du côté du bien et du mal. Elle fait donc le lien entre métaphysique et éthique. Oui, c'est vraiment le point de vue qui nous montre toutes les orientations possibles de la pensée humaine. Plaque tournante. La qualité au niveau de l'être, la qualité au niveau du devenir, la qualité du côté du bien et du mal. Et c'est toujours la qualité qui se divise elle-même. C'est très étonnant, si vous voulez. Essayez de saisir ce qu'est la qualité. Vous voyez tout de suite cette diversité. C'est comme un rond-point où on voit toutes les directions. Macon, Chalon, Autun, grand rond-point. C'est l'altération. Donc la disposition se trouve dans les aspects différents. Du point de vue métaphysique, ce n'est plus uniquement dans la lumière de l'ousia qu'il faut la comprendre, mais aussi dans la lumière du bien, c'est-à-dire de la cause finale. Quant à l'exis, l'habitus, elle aussi fait appel à la cause finale. Le pathos est considéré à part dans la philosophie première. Cependant, Aristote affirme qu'il est la qualité suivant laquelle la réalité peut être altérée. Et qu'en autre sens, il est l'altération elle-même, l'acte de ces qualités. Donc retenez bien ça, parce que c'est quand même une étude extrêmement intéressante et délicate. Pourquoi le pathos est-il considéré de cette manière et n'est-il pas examiné avec la qualité, alors qu'Aristote reconnaît que c'est une qualité et que dans les catégories, il est présente même comme une des espèces de qualité. Il semble que dans la philosophie première, poussant plus loin son analyse, Aristote distingue ce qui ne devait pas être distingué dans les catégories, ni en philosophie de la nature. En philosophie première, il distingue la qualité différente de la substance de la disposition, parce que l'une est détermination selon l'ordre de la cause formelle, tandis que l'autre est une détermination qui implique le point de vue de la cause finale. De même, s'il distingue la qualité différente de la substance du pathos, c'est parce que l'une est au niveau de l'être, on distingue ce qui relève de la cause formelle de ce qui relève de la cause finale. Autrement dit, au niveau métaphysique, au niveau du legain, on ne distingue pas. Puisqu'au niveau d'attribution. Donc on pourra mettre le pathos parmi les qualités. Au niveau métaphysique, on voit tout de suite la différence entre la qualité qui relève de la cause formelle, la substance, et la qualité qui relève de la cause finale, l'acte. On aura donc deux espèces de qualités différentes. Et par le fait même, le pathos, qui implique l'aspect de la passivité, ne sera plus traité comme une qualité. C'est assez subtil, hein. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'Aristote a eu un sens extrêmement aigu de la qualité. Je vous ai dit au début, hein, qu'Aristote est le premier qui traite de la qualité en soi. Quelqu'un qui va faire un petit travail extrêmement intéressant dans Aristote, ce serait de travailler la qualité chez Aristote. Parce que je suis persuadé qu'on découvrirait par là Aristote, philosophe de la qualité. De façon très très particulière. Et parce que philosophe de la qualité, philosophe qui peut nous faire comprendre ce que c'est que l'art. Parce que l'artiste, c'est l'homme de la qualité. Avant tout. Dans la physique, Aristote traite particulièrement de l'altération. Dans le Decello, c'est le rôle du léger et du lourd qui est mis en lumière, ainsi que celui d'un schéma et de la chaleur, qualité active. Dans le Degeneratione et Corruption et les Météorologies, Aristote analyse les qualités fondamentales du toucher, des éléments et des corps. Et faut pas oublier que c'est par la qualité qu'Aristote distingue les éléments. Donc, la qualité permet de donner le fondement dernier de l'être mobile. Puisque c'est par la qualité qu'on va distinguer les éléments. Le fondement de tout le monde physique. Très curieuse. Ça montre que ce qu'il y a de détermination plus fondamentale dans le monde du devenir, c'est la qualité. C'est pas la substance. Ou, si vous voulez, c'est la substance par la qualité. On ne distingue pas les deux. On reste au niveau de la diaphore. On pourrait presque dire la même chose, voyez, au niveau éthique. C'est l'entelekeia. C'est pas l'energeia, c'est l'entelekeia. La qualité. La qualité du mouvement, la qualité de l'opération vitale. Donc là, il y a des problèmes extrêmement curieux qui ont été très peu traités, hein. On a très peu traité la qualité au niveau philosophique. Parce qu'on la considère toujours comme quelque chose de second, alors que c'est pas du tout quelque chose de second. On le verra, ça. Il y a, du côté de la qualité, quelque chose qui est un certain absolu. Que l'artiste sentira là qu'on peut comprendre que la philosophie de l'art joue un rôle capital en philosophie. Pas du tout un rôle secondaire. Et que la scolastique, ayant laissé tomber la philosophie de l'art, par le fait même, la scolastique décadente, par le fait même, il y a des tas de choses qu'elle n'a plus vues. Elle est retombée dans une certaine université. Je regarde tout de suite maintenant le point de vue de saint Thomas. Regardez tous les autres, évidemment. Si Aristote est le philosophe de la qualité, on pourrait peut-être dire que saint Thomas est le théologien de la qualité. Ce serait assez original et intéressant. Ça ferait taire beaucoup de personnes sur saint Thomas. Je croirais assez volontiers. Il y a dans la théologie de saint Thomas toute une logique et une métaphysique de la qualité. Logique et métaphysique qui, du reste, ont leur source chez Aristote. Je me suis demandé, il faut se demander, y a-t-il dans saint Thomas quelque chose de plus explicite que ce que dit Aristote sur la qualité. Ça aussi, c'est un problème intéressant. Étant donné que je crois qu'Aristote est le philosophe qui a poussé le plus loin dans l'ordre de la qualité. Sans doute parce qu'il a découvert la substance. Si on découvre la substance, on découvre la qualité comme diaphora, tes ousias. Donc on découvre la qualité dans ce qu'elle a de plus radical. Et par le fait même, on peut découvrir toutes les autres modalités de la qualité. Est-ce que saint Thomas a-t-il été plus loin qu'Aristote dans son étude sur la qualité? Personnellement, je ne crois pas. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de se poser le problème. Parce que si c'est vrai, voyez, si c'est vrai que la métaphysique de saint Thomas sur la qualité est la même que celle d'Aristote, vous pouvez voir là, voyez, combien la métaphysique de saint Thomas et celles d'Aristote sont les mêmes. Puisque nous avons vu que la qualité se prend dans deux directions différentes. Causalité formelle, causalité finale, en définitive. Causalité formelle, la différence de la substance. Causalité finale, l'acte, altération. Et puis, habitus. L'habitus est ordonné à la fin. Et l'habitus regarde les opérations éthiques. Bien, je crois que nous retrouvons ça exactement dans saint Thomas. Ce qui est sûr, hein, que dans saint Thomas, l'habitus devient une pièce maîtresse. On ne comprend rien à la théologie de saint Thomas si on ne comprend pas ce que c'est que l'habitus, l'exis. Alors vous voyez, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la métaphysique, la philosophie, est au service de la foi. Surtout par le point de vue de la fin. La causalité finale. C'est par la causalité finale que l'intelligence est le plus proche de la foi. Nous avons vu pour les voies d'accès vis-à-vis de l'existence de Dieu. C'est la causalité finale qui permet à l'intelligence de faire ce pont dernier. Il existe nécessairement un être premier. C'est pas la causalité formelle. causalité formelle reste dans l'immanence. La causalité finale seule permet de toucher la transcendance. Toujours. Alors, on comprend très bien que le théologien se sert de la philosophie avant tout par le point de vue de la causalité finale. C'est par la causalité finale qu'une philosophie peut être utilisée par le théologien. Et par la fin, le point de vue de la cause formelle. Mais pas directement la cause formelle. Quand le théologien se sert directement de la cause formelle, il y a des catastrophes. On a Spinoza. On a quelque chose qui ne va plus du tout. On reste dans l'immanence. Oui. Tandis que la causalité finale permet tout de suite. Or, dans la causalité finale, altération, habitus. Les deux niveaux. Parce qu'au fond, vous avez ces trois aspects de la cause de la qualité. Or, chez saint Thomas, alors c'est pour ça que si on prenait un peu matériellement saint Thomas, vous voyez, c'est toujours la difficulté, c'est que quand on compare Thomas d'Aquin et Aristote, on les compare en les prenant dans leurs œuvres directement. On oublie que d'un côté, on a affaire à un philosophe, de l'autre côté, un théologien. Or, l'ordre du philosophe et l'ordre du théologien est différent. Saint Thomas est conscient de faire une théologie. Aristote est conscient de faire une philosophie. Donc, ne comparons pas matériellement. Si on compare matériellement, il est évident que l'ordre du théologien n'est pas du tout l'ordre du philosophe. Même s'ils ont la même métaphysique. Il faut donc être suffisamment intelligent pour comprendre qu'il y a deux ordres différents et que par le fait même, la mise en lumière des qualités est toute différente dans Aristote, dans saint Thomas. Dans Aristote, l'ordre métaphysique met en pleine lumière la diaphora de la substance. Saint Thomas, en théologien, met en pleine lumière l'habitus. Je crois que ça, on peut le comprendre. Et mettre en pleine lumière l'habitus ne veut pas dire qu'il y a deux philosophies différentes de la qualité. Ça veut dire tout simplement que en tant que théologien, saint Thomas utilise en premier lieu la philosophie de la qualité qui est l'habitus. Tandis qu'Aristote utilise, lui, en premier lieu, la diaphora de la substance. Et ça, tout simplement, c'est, parce que c'est des questions très disputées aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'intérieur du thomisme. Y a-t-il deux métaphysiques différentes, celle de saint Thomas, celle d'Aristote, ou y a-t-il la même métaphysique? C'est intéressant comme question. Alors, si je regarde matériellement l'un et l'autre, je dirais, c'est très très différent chez l'un et chez l'autre. Saint Thomas met en pleine lumière l'essai. Pas Aristote. Saint Thomas met en pleine lumière l'habitude. Pourquoi? Parce qu'il est théologien. Et de l'autre côté, j'ai affaire au philosophe. Et l'ordre du théologien et l'ordre du philosophe sont différents. Donc là, il y a un problème très intéressant, c'est de voir comment saint Thomas utilise la philosophie de la qualité d'Aristote. Qu'est-ce qu'il met en pleine lumière? Alors, c'est évident que chez saint Thomas, l'habitus prend une place énorme. C'est pour ça que dans la topique sur Aristote, dans la topique sur la qualité chez saint Thomas, je commence tout de suite par l'habitus. Je dirais, l'habitus montre comment saint Thomas, en théologien, est le théologien de la qualité. Et comment la diaphora de la substance, mais en pleine lumière, comment Aristote est le philosophe de la qualité. Et affirmer cela, c'est montrer que les deux, l'un en philosophe, l'autre en théologien, ont un sens étonnant.